Depuis plusieurs semaines, des manifestations se tiennent régulièrement au Liban. Dimanche dernier, à Beyrouth, des centaines de Libanais se sont rassemblés en réponse à un appel sur les réseaux sociaux, dénonçant pêle-mêle le coût de la vie, la corruption, la défaillance des services publics ou encore l'incapacité des responsables à former un gouvernement depuis les élections législatives de mai dernier. Et certains de ces manifestants portaient même des gilets jaunes. Alors jusqu'où peut-on comparer ces gilets jaunes du pays du cèdre à ceux qui ont fait l'actualité ici en France? Comment s'y retrouver dans cette myriade de revendications? On va retrouver tout de suite Sophia Amara depuis Beyrouth. Bonjour Sophia Amara.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, réalisatrice et une spécialiste du Proche-Orient. Jusqu'où est-ce qu'on peut établir un parallèle entre cette colère libanaise et celle qui est portée par les gilets jaunes en France depuis quelques semaines? Quelle ressemblance, quelle dissemblance entre les deux mouvements, Sophia Amara?
Eh bien écoutez, le mouvement est clairement inspiré des gilets jaunes français. Il faut rappeler ici que le Liban est évidemment un ancien protectorat et que les deux pays ont toujours été très proches et que les Libanais se targuent d'avoir de voir en Beyrouth un petit Paris. Mais au-delà de cela, évidemment qu'il y a une inspiration des gilets jaunes français. Et que parmi les revendications qui ont été lancées, il y a évidemment la baisse des impôts et des prix du carburant, mais la revendication est beaucoup plus vaste côté libanais, puisque le Liban est un pays qui souffre de maux profonds, de problèmes structurels autrement plus graves que ceux dont pourraient se plaindre les manifestants ou dont se sont plaints les manifestants français, à savoir l'insécurité, les problèmes d'électricité, les coupures de courant très fréquente aujourd'hui, des décennies après la fin de la guerre civile libanaise, de manque d'eau, une pollution gravissime, un gouvernement qui n'a pas été formé depuis 7 mois après les élections législatives de mai dernier, et la guerre en Syrie qui est le pays voisin, un pays voisin du Liban, la présence de plus d'un million de réfugiés syriens dans un petit pays qui compte quelques millions d'habitants. Tout ça fait que, évidemment, ils se sont inspirés des gilets jaunes français, mais qu'au-delà de ça, il y a un ras-le-bol général avec des revendications qui sont disparates, puisqu'on a entendu parler de cherté de la vie, de corruption endémique, d'un système confessionnel qui rend impossible le pays complètement ingouvernable, jusqu'à chaque fois qu'il faut former un gouvernement, il faut que tous les partis politiques, mais également que toutes les confessions, le Liban en compte 18, soit toutes, y participent toutes d'une manière ou d'une autre, et donc par conséquent, le problème est beaucoup plus grave au Liban, même s'il faut, on se dit au Liban que ce mouvement va rapidement s'étouffer avec le début de l'année 2019.
Oui, vous avez raison évidemment de rappeler que les difficultés du quotidien, même si elles sont bien sûr très réel. En France, au Liban, c'est assez différent. Il y a effectivement des problèmes fondamentaux comme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. On sait qu'au Liban, Sophia Amara, la vie politique est extrêmement complexe et surtout qu'elle est organisée autour des différentes communautés religieuses. Est-ce que ce mouvement citoyen, alors je disais tout à l'heure, certaines personnes ont porté un gilet jaune, mais est-ce que ce mouvement citoyen est lui aussi confessionnalisé? Ou est-ce que finalement toutes les communautés sunnites, chiites, chrétiennes se retrouvent dans cette colère?
Alors, c'est une très bonne question. Justement, ce mouvement n'est pas confessionnalisé. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Puisque vous avez eu dimanche dernier, certes, le premier mouvement a eu lieu il y a 2 semaines. Et il avait été lancé à l'appel du Parti communiste libanais, qui était éminemment anti-confessionnel, anti-sectaire, anti-religieux, puisque c'est un parti communiste, donc. Mais le mouvement de dimanche dernier, donc il y a 3 jours, qui doit se renouveler cet après-midi, d'ailleurs, après la trêve de Noël, eh bien, ce mouvement-là n'est pas confessionnalisé. C'est-à-dire qu'on a pu voir dans la même foule des chrétiens, des musulmans, des gens de gauche, des gens de droite, des gens proches des forces libanaises qui sont la droite chrétienne dans ce pays, comme des gens proches du Hezbollah, évidemment, parti religieux, proche de l'Iran, proche de la Syrie, de Bachar el-Assad. Donc, pour le ras-le-bol est généralisé et on a pu voir des pancartes qui disaient « quand on a faim, on n'a plus de confession, on n'a plus de parti ». Cela dit, ce genre de mouvement-là, il y en a eu un pendant la vacance présidentielle. Il faut rappeler que le Liban est également resté resté sans président de la République pendant 2 ans. Donc ce genre de crise politique arrive souvent au Liban, au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la présidence ou même du Parlement qui a été auto-reconduit plusieurs fois avant les élections de mai dernier. Eh bien là, il y a évidemment une volonté de se débarrasser de ce carcan communautaire, de ce système confessionnalisé qui est une plaie pour le Liban. Mais au final, quand de graves questions sont posées, la population, de manière générale et à travers les élections, revient vers les partis traditionnels, qui sont des partis confessionnels.
Oui, donc il faut pas s'attendre à ce que...
Pendant les élections de mai dernier, oui. Il y a eu des partis justement qui appelaient à la fin du système confessionnel, à la fin du système communautaire, et elles n'ont eu que très peu de voix, très peu de poids, et au final très peu de succès, et peu de sièges au nouveau Parlement libanais.
Oui, donc si je vous entends bien, il ne faut pas penser que ce mouvement citoyen bouleversera fondamentalement le paysage politique libanais traditionnel. Revenons un tout petit
Absolument.
Peu sur les élections législatives de mai dernier. Le Premier ministre Saad Hariri a été désigné pour former un gouvernement et pourtant il ne parvient pas à former ce gouvernement. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, c'est une situation classique au Liban, c'est-à-dire que le Liban est une démocratie, c'est même pour certains la seule démocratie arabe, est une démocratie consensuelle et elle est imparfaite, elle a beaucoup de défauts, mais elle a le mérite d'être là. C'est une réelle démocratie puisque le président de la République change tous les 6 ans et que le Parlement est élu donc démocratiquement. Le seul problème, c'est qu'il y a une vision assez spéciale à la libanaise qui veut que toutes les confessions, toutes les tendances soient représentées, contrairement à nos démocraties occidentales où il y a un pouvoir qui gouverne, une majorité qui gouverne et une opposition qui dénonce, qui joue son rôle en attendant un prochain scrutin. Or ici, que les partis aient gagné ou perdu, et d'ailleurs qui est gagnant, qui est perdant, c'est souvent difficile à déterminer puisque c'est un petit pays avec plusieurs communautés et que les alliances changent et que finalement toutes les communautés demandent à être représentées et il suffit qu'il y ait durant la distribution des portefeuilles ministériels un blocage quelque part pour que le pays ou la situation soit complètement gelée et que toute tentative d'outrepasser ce blocage pourrait sembler comme une atteinte aux droits de la communauté à laquelle appartient tel ministre, tel candidat, tel présidentiable ou tel ministrable.
Oui, il faut relativiser évidemment les choses, puisque au Liban, effectivement, traditionnellement, on met beaucoup de temps à former des gouvernements. Le prédécesseur de Saad Hariri, par exemple, Tamal Salam, avait mis quasiment 1 an, lui, pour faire son gouvernement.
Exactement.
Donc, il faut patienter. Merci beaucoup, Sophia Amara, d'avoir été en direct ce matin avec nous depuis Beyrouth. Je rappelle que vous êtes journaliste et réalisatrice. Merci beaucoup.